1m76, 6 millions de francs. Ça valait le coup parce qu'il courait très vite. Et j'ai marqué plein de buts avec lui. 9 buts en 3 matchs. C'est pratique, une famille comme ça, on s'y sent facilement rebelle, différent et minoritaire.
Ils se tiennent par la main, s'appellent mon chéri. Un baiser le matin et un autre pour la nuit. Ils vivent une vie ordinaire dans un endroit ordinaire. Entre les choses faites et les choses à faire, leur amour était si fort, mais voilà qu'aujourd'hui se toucher est un effort, ainsi va la vie. Ils voudraient, comme hier, se trouver beau, merveilleux. À leur 20e anniversaire, ils avaient de si beaux yeux. Alors ce soir, c'est pas pareil, comme deux gamins. Ils vont voir les couchers de soleil et s'enivrer au vent marin, et s'enivrer au vent marin. Ils oublient le crédit, la vaisselle, et s'embrassent, la mer est basse, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ils se lâchent un peu le bras, se disent mon coco. Tu es beau comme être Tatien, j'ai perdu les clés de l'auto. Tu sens si bon les embruns, c'est toi qui les avais ce midi. Regarde dans ton sac à main, allons voyons réfléchis. Te souviens-tu de nos nuits noces, de nos nuits de folie? Comme des gosses à ne pas craindre les ennuis. Mais toi, te souviens-tu où t'as fichu ces fichus clés? Concentre-toi mon lapineau, je sens que la nuit va tomber. Alors ce soir, c'est toujours pareil, comme deux gamins. Des nuées d'étincelles et s'engueuler au vent marin, et s'engueuler au vent marin. Ils se reprochent le crédit, la vaisselle, et se font, et la mer monte dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ils s'arrachent les bras, les mains, se disent va-t'en d'ici. Canal, je suis très bien, mais j'ai de l'eau juste ici. Arrête avec tes simagrées. Et d'abord, pourquoi tu sais pas nager? Salut à mort, tu étais ma seule bouée. Il va être minuit passé et ma force se noie. Je n'arrive plus moi dans l'eau, toi dans mes bras. Le crédit, la vaisselle, à qui la faute? La mer est haute dans la baie du Mont-Saint-Michel.
Alors là, ça s'appelle Autre Chose.
Ça s'appelle Autre Chose.
O-T-C-H-O-Z. Et c'est au chant, c'est François Mallet, c'est ses textes. C'était aussi un chanteur lyonnais. Et guitare, basse et autres instruments, c'est Thomas Rollin. Voilà, j'en profite pour leur faire un petit coucou. Alors on enchaîne maintenant, après Fabien, c'est Siébert. Qui est Siébert?
Et du coup, c'est un autre registre, donc ça va être autre chose.
Du coup, c'est un texte donc, de Christophe Siébert qui s'appelle « Une vie normale ». Et donc, il sera interprété par Pétas. Pétas, c'est un type de Bruxelles qui a aussi un duo qui s'appelle Meurtre Fantôme, qui est vraiment génial, si vous avez l'occasion de les voir. Et donc là, donc Christophe Siébert, c'est un poète, écrivain, qui a aussi participé, entre autres, aux 4 numéros de violence. Donc voilà, une vie normale.
C'est quoi une vie normale? Putain, mais qu'est-ce que ça veut dire une vie normale? Putain, mais une vie normale, c'est quoi? C'est quoi une vie normale? Putain, mais qu'est-ce que ça veut dire une vie normale? Payer ses factures, c'est une vie normale? Et s'arracher les cheveux parce qu'on peut pas les payer, c'est quoi? S'arracher les cheveux parce qu'on peut pas les payer, c'est une vie normale ou pas une vie normale? Et s'en foutre? Et s'en foutre, c'est quoi? C'est normal ou c'est pas normal? C'est normal ou c'est pas normal de s'en foutre? Les regarder s'entasser sans en avoir rien à foutre, c'est quoi? C'est une vie normale ou pas? C'est normal ou c'est pas normal? C'est quoi une vie normale? Putain, mais c'est quoi une vie normale? Préférer aller au resto plutôt que payer le loyer, c'est une vie normale? Et être clochard, c'est une vie normale ou une vie pas normale? C'est normal ou c'est pas normal d'être clochard? Normal ou pas normal? Et s'en foutre d'être clochard, c'est quoi? Ne pas avoir peur d'être clochard, c'est une vie normale ou une vie pas normale? C'est normal ou c'est pas normal? Et être terrifié de devenir clochard, et avoir peur de ça au point d'obéir à n'importe qui, obéir à n'importe quoi, parce qu'on a peur, c'est normal ou c'est pas normal? C'est une vie normale ou une vie pas normale? C'est normal ou c'est pas normal? Dire « Oui, monsieur !» à un connard hiérarchiquement supérieur, c'est une vie normale? Dire « Oui, monsieur !» parce qu'on a peur, c'est une vie normale? Mais merde, c'est quoi une vie normale? C'est acheter tout ce qu'on veut? C'est ça une vie normale? Acheter tout ce qu'on veut, c'est une vie normale. Acheter tout ce qu'on veut, c'est une vie normale. Ou une vie pas normale? Partir en voyage quand on veut, c'est une vie normale? Avoir assez de fric pour pouvoir faire ce qu'on veut, c'est normal? Ou c'est pas normal? Hein? C'est normal ou c'est pas normal? Partir en voyage où on veut, c'est une vie normale? Avoir assez de fric pour ça, c'est une vie normale? Ou c'est pas une vie normale? C'est normal ou c'est pas normal, merde? Et ne pas le faire parce qu'on est pauvre, c'est une vie normale ou pas? C'est une vie normale d'être pauvre? C'est une vie normale ou pas? C'est une vie normale de ne pas pouvoir partir en voyage? C'est une vie normale de jamais partir en voyage? C'est une vie normale ou pas? C'est une vie normale de ne pas vouloir sortir chez soi? C'est une vie normale de vouloir aller nulle part? C'est une vie normale ou une vie pas normale? C'est normal ou c'est pas normal? C'est une vie normale de vouloir s'acheter des trucs et pas pouvoir? Et de vouloir s'acheter des trucs et pouvoir le faire? C'est une vie normale? De rien vouloir s'acheter? Rien vouloir s'acheter, c'est quoi? Rien vouloir s'acheter, c'est une vie normale ou une vie pas normale? C'est normal ou c'est pas normal? Pas vouloir, c'est une vie normale? C'est une vie normale de rien jamais vouloir? C'est une vie normale, ça? C'est normal ou c'est pas normal? Avoir tout le temps envie de baiser, c'est une vie normale? C'est une vie normale d'avoir tout le temps envie de baiser? C'est une vie normale ou une vie pas normale? C'est normal ou c'est pas normal, hein? Et n'avoir jamais envie de baiser, c'est normal? Avoir soit tout le temps envie, soit jamais envie, c'est quoi? Et avoir envie jamais quand il faut? Et avoir envie mais ne pas pouvoir? Et avoir des envies tordues qu'on ne peut pas réaliser? Et avoir des envies tordues mais qu'on peut réaliser, c'est quoi? C'est quoi tout ça? C'est une vie normale ou une vie pas normale? C'est une vie normale ou pas? C'est une vie normale? Mais c'est quoi une vie normale? C'est quoi une vie normale, putain? Qu'est-ce que c'est une vie normale? C'est une vie où tu chiales? Mais c'est quoi une vie normale, putain? Est-ce que c'est une vie normale? C'est une vie normale? C'est une vie où tu ne chiales jamais à 4h du matin? Hein? C'est ça? C'est ça une vie normale? Mais qui c'est qui n'a jamais eu envie de chialer à 4h du matin? Hein? Qui c'est? Et ceux qui ont envie de chialer à 4h du matin, ils sont comment? Ils sont normaux ou ils sont pas normaux? Et leur vie à eux, elle est comment? Elle est normale ou pas? Elle est normale ou pas normale? Et ceux qui s'empêchent de chialer, ils ont une vie normale? Ceux qui s'empêchent de chialer, ils ont une vie normale, ceux-là? Et ceux qui se laissent aller, ceux qui chialent toute la nuit, et ceux qui chialent tout le temps, c'est normal de chialer? C'est normal de pas chialer? C'est normal ou c'est pas normal? C'est quoi une vie normale? C'est quoi une vie normale, putain? Qui c'est qui a la vie normale? Les alcoolos, ils ont une vie normale, les alcoolos. Ils ont une vie normale, les alcoolos. Et les cachetonneux, ils ont une vie normale, les cachetonneux. Ils ont une vie normale, ceux qui sont trop déquaires pour chialer à 4h du matin. C'est ça? C'est ça une vie normale? C'est cela qui est une vie normale? Elle est normale ou pas normale, leur vie? Normale ou pas normale? Putain de merde. Cette vie normale dont les magazines et les films de merde et les romans de merde nous parlent. Qui c'est qui l'a, hein? Qui c'est qui l'a cette vie normale? Ils ont cette vie normale, ceux qui fabriquent ces magazines et ces films de merde et ces romans de merde? Ils ont cette vie normale? Et ceux qui achètent toute cette merde, elle est normale leur vie? Elle est normale ou pas normale? Et avoir un gosse, c'est normal ou c'est pas normal? Ne pas avoir de gosse, c'est quoi? Ne pas avoir de gosse, c'est une vie normale ou pas une vie normale? Et avoir un gosse, et pas le voir, c'est quoi? C'est une vie normale ou pas? C'est quoi une vie normale, hein? C'est quoi une vie normale? C'est quoi une vie normale, putain? Qui c'est qui l'a, une vie normale? Qui c'est qui en a une de vie normale? Qui c'est qui a ça, putain? Une vie normale, c'est ni combien de personnes à la fois? 1, 2, 3, 0, 3 000. Une autre personne, c'est une vie normale? Et nous tout le monde, c'est quoi? C'est une vie normale ou une vie pas normale? C'est normal ou c'est pas normal? Et si personne ne t'aime, c'est une vie normale ou une vie pas normale? Une vie normale, c'est mourir à quel âge? Se suicider, c'est une vie normale? Être vieux et malade, c'est une vie normale? C'est quoi une vie normale? On meurt comment quand on a une vie normale? Et quand on a une vie pas normale, on meurt comment quand on a une vie pas normale? Merde, mais c'est quoi cette vie normale? C'est parce que c'est le bonheur, c'est une vie normale? C'est parce que c'est le malheur? C'est ça une vie normale? C'est pouvoir mesurer les choses? C'est parvenir à les comprendre, c'est ça? Comprendre quelque chose, c'est une vie normale. C'est une vie normale de piger quelque chose au monde. C'est ça une vie normale. Et quand tu comprends rien, c'est quoi? Et quand on pige rien, c'est quoi, putain? Rien piger, c'est normal ou c'est pas normal? Être complètement paumé, c'est une vie normale ou une vie pas normale? Normal ou pas normal? C'est une vie pas normale quand on ne comprend rien? C'est une vie pas normale quand on n'arrive à rien? C'est quoi une vie pas normale, hein? C'est quoi une vie normale? C'est quoi alors? Ça ressemble à quoi une vie normale? Ça ressemble à quoi une vie normale? Vie normale, hein? Ça ressemble à quoi une vie normale? Vie normale, vie normale, vie normale.
Watch World sur la radio. Radio Canu, c'est dans Patch World, on est en direct dans Patch World. Et donc le groupe Backroads, c'est aussi un groupe lyonnais, comme son nom ne l'indique pas, je précise. Et c'est Sylvaine qui écrit les textes en anglais. Alors aujourd'hui, mes invités, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, je vous proposais de faire une grande émission aujourd'hui pour parler de plusieurs auteurs, poètes, écrivains, qui viennent de Saint-Étienne, mais pas que. À Siébert, il était, tu m'as dit, de Clermont-Ferrand.
De Clermont-Ferrand.
Mais le test qu'on a entendu, c'est quoi le titre déjà ?
Une vie normale.
Une vie normale, c'est... voilà. Tu m'as dit, c'est un musicien qui le lisait, qui vient de Belgique.
Oui, qui habite à Bruxelles.
Et donc, tu en reviens de Belgique ?
Oui, j'ai passé un mois là-bas, ouais, à Bruxelles essentiellement et un peu à Liège, ouais.
Tu as découvert donc des auteurs, des musiciens,
pas
des
tant.
Lieux
Des lieux, oui. Enfin, il y a le Barloc à Bruxelles, qui j'étais jamais allée. Enfin, après, c'est un lieu, je pense, important de la culture bruxelloise. Et après, à Liège, où on a...
Qu'est-ce qui s'y passe
Beaucoup de concerts. Des concerts des lectures, des perfs, donc c'est un squat, il me semble. Et du coup, ça fait un moment qu'ils durent là-bas. Et à Liège, notamment, une librairie qui s'appelle Le Comptoir et qui est vraiment spécialisée en micro-édition. Et il y a tout un tas de bouquins d'édition que je ne connaissais pas du tout là-bas. Et... Donc j'ai laissé quelques violences en dépôt.
Donc cette revue, tu m'as dit, elle existe depuis quand ?
Depuis un an.
Et vous pouvez la retrouver dans des... On peut la retrouver dans des magasins pour les auditeurs qui voudraient...
Malheureusement, non. Enfin, pas encore. Là, j'ai plus du tout de stock en plus. Mais du coup, je vais réimprimer tous les numéros en septembre. Et sinon, dans un dépôt, du coup, il y en a à Liège et à Montpellier, dans un lieu qui s'appelle La Jetée aussi, où il y a beaucoup d'expos. Et donc, dans le local d'un mec qui fait une revue qui s'appelle Banzai. Si vous ne connaissez pas, vraiment, je vous conseille d'aller jeter un œil ou de la commander, parce que c'est vraiment un boulot magnifique. Voilà.
Et il y a des liens si on va sur votre Facebook.
C'est ça, pour l'acheter, il y a des liens. Et après, oui. Du coup, le but, ce sera en septembre d'arriver à en sortir assez pour en mettre en dépôt dans plusieurs librairies. Enfin, ne serait-ce que localement, même à Lyon, il y a pas mal de librairies, je pense. Ouais.
Puis du coup, on fait des tables aussi, des tables pendant les lectures. Parce qu'à chaque sortie de violence, du coup, on fait des lectures. Beaucoup à Saint-Étienne, sinon à Lyon et à Clermont aussi. Ouais. Ouais. Et du coup, on fait toujours une distro avec tous les numéros. Et...
Ouais. Puis des salons, mais ça c'est plus... Enfin, j'en ai fait 2-3 cette année, quoi, avec violence. Mais...
Des salons du livre
Ouais, de micro-édition essentiellement, parce que... Enfin, c'est pas le salon du livre parisien.
Ouais. Où est-ce qu'il se trouve, ce salon du livre de micro-édition ?
Comment ?
Où est-ce que ça se trouve, ces salons de livres de micro-édition ?
En fait, il y en a pas mal en Europe. Là, je suis allée à Amiens, à Grenoble, mais il y en a vraiment partout. Enfin, à Strasbourg, il y en aura à Marseille dans pas longtemps.
Et Lyon et Saint-Étienne ?
Saint-Étienne, il me semble qu'il y en avait un au début de l'année, mais moi, j'étais pas là. Et, non, c'était le salon du livre libertaire. C'était pas de micro-édition, il me semble qu'il n'y en a pas à Saint-Étienne. À Lyon, il y en avait. Je sais pas si ça se poursuit ou pas, mais je viens plus beaucoup à Lyon, en fait. Je sais pas.
Non. Mais les lectures, c'est une bonne occasion de découvrir violence. Parce que du coup, c'est des lectures, donc ça permet de rentrer dans les textes aussi au travers par les voix, avec de la musique, et puis de découvrir un peu l'ambiance générale. Et là, il y a possibilité d'acheter des violences aussi. Donc je trouve que les lectures, moi qui ai participé, du coup, et qui ai découvert pas mal d'auteurs comme ça, c'est une bonne porte d'entrée.
Alors, cette revue, elle se présente comment pour qu'on ait une idée ? Elle fait combien de pages ? Il y a combien d'auteurs ? Elle est quel format ?
Alors, c'est un format A5, c'est un agrafé. Du coup, en noir et blanc, enfin, c'est aussi parce qu'elle coûte 5€, donc c'est en noir et blanc, c'est vraiment pour essayer de faire aussi le moindre coût. Et du coup, il y a une soixantaine de pages à peu près, donc des textes pas trop longs, ça va jusqu'à 5 pages. à 5 pour les textes, 5-6, ça dépend, pour les plus longs comme Astrid.
Je négocie toujours pour avoir un peu plus de signes.
Et après, donc des illustrations aussi, voilà, il y en a pas mal, et oui, à peu près bah, 25 personnes en moyenne par donc auteur et illustrateur par numéro, quoi. Et donc ça tourne, il y a des auteurs qui participent à tous les numéros, il y en a qui sont dans un seul, donc, voilà, c'est selon.
Alors, c'est toi qui choisis, Luna,
oui.
La ligne d'édition, ou vous êtes plusieurs dans le comité de lecture?
Non, c'est moi. Du coup, c'est...
Luna est un comité de lecture.
J'assume, c'est vrai. C'est tout à fait subjectif. Après, il y a des fois des textes qui me plaisent moins, mais je trouve que ça a sa place aussi dans le fanzine, enfin, au niveau de la cohérence de l'objet. Et j'aime bien par rapport au retour, parce que c'est souvent pas les mêmes textes que les gens apprécient. Du coup, ça... Enfin, il y en a un peu pour tout le monde, mais ça, oui, je veux garder une cohérence quand même. Et puis, je travaille avec les auteurs selon les numéros. Pour le dernier, je n'ai pas du tout retravaillé, par exemple. J'ai pris vraiment ce qui me convenait d'office et voilà, j'ai fait la flemmarde. Et voilà, donc je fais tout. Et après, il y a Christophe Siebert, justement, qui relie pour les ultimes fautes d'orthographe. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est vrai que du coup dans tes choix, je trouve qu'il y a quand même pas mal de variété, parce que des fois dans certains fanzines comme ça, enfin de revues, c'est un peu tout la même couleur, on va dire, et là je trouve que il y a quand même des auteurs très différents, et je trouve qu'on le ressent dans les lectures aussi, où on a vraiment chacun un univers différent, une écriture différente et des façons de lire différentes. Enfin, je trouve que c'est assez varié en fait. Et je trouve ça assez agréable, quoi.
Juste pour faire un petit parallèle, Fabien, avec ta revue Terrasse.
Oui.
C'est ce que ça, c'est la même configuration, le format, le coût,
non,
le
c'est...
choix. Le...
Ça, à part les agrafes, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui ressemble. Donc, bah, il y a de la poésie aussi dans Violence, mais là, la Terrasse, c'est plus de la poésie, justement. Et après, c'est pareil, c'est complètement subjectif. C'est moi qui choisis les textes. Donc c'était parti de textes que j'avais aimés, puis j'ai décidé de lancer ça. Mais je pense que ça n'a pas trop de lien. Enfin, le lien est là, parce que voilà, il y a de la poésie, c'est des textes. Ça peut aussi traiter de violence, entre guillemets, dans la Terrasse. Mais je pense que c'est pas le même registre.
Et le format, le prix, les lieux où on les trouve, les...
Alors le prix, de toute façon, c'est un prix bas. Voilà, pour avoir aussi une chance d'en vendre et puis que ce soit ouvert à un petit peu tout le monde. Au niveau, je pense, de la distribution, ça se ressemble beaucoup, c'est-à-dire que la distribution est assez...
sur Internet.
Fermée, c'est sur Internet. Voilà, c'est un peu la seule chance de s'ouvrir un peu... Enfin, c'est pas la seule chance, mais c'en est quand même une grosse, pour montrer un petit peu le travail d'écrivains et de poètes. Et puis voilà, après c'est pareil, c'est pas très cher, et puis on en vend pas mal en les envoyant, quoi. Donc à des gens un petit peu partout.
Et ce que je fais pas du tout, mais nous avec les soirées de sortie, c'est vrai qu'on, enfin là il y a pas mal de ventes aussi, ouais, toi t'en envoies, ouais, pour dire enfin, tu disais t'en vends.
Je les vends beaucoup par internet, en fait.
Ouais,
hein.
Ouais.
C'est vrai que à Lyon, la revue est dans deux librairies, mais c'est des librairies qui vendent pas spécialement de poésie. Voilà, la poésie, de toute façon, ça se vend quand même pas énorme. Donc ils les ont mis un peu en avant au départ, donc il y a eu quelques ventes, mais c'est beaucoup plus par le réseau et beaucoup beaucoup par Facebook, en fait. Hein.
Parce que, et voilà, quelle librairie à Lyon?
Le Livre en Pente. En haut de la montée de la Grande Côte.
Et il n'y a pas de librairie à Saint-Étienne aussi, non?
Si, mais en fait, c'est juste que j'ai contacté aucune librairie. En fait, même le Livre en Pente, Fabien m'en avait parlé et tout ça. Mais là, en fait, j'ai plus de numéros. En fait,
vous êtes allé voir les librairies libertaires à Lyon, genre La Griffe ou La Plume?
Ouais, La Griffe, ouais. Par exemple, j'y pensais. Bah, plus même pour Violence, je pense qu'il correspond bien. À l'idée que je me fais du lieu, enfin à ce que j'ai pu voir là-bas, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de temps aussi. Moi, j'ai plein d'idées, et je pense que Luna, c'est pareil pour le distribuer. C'est-à-dire à me dire, bon ben, je vais envoyer une revue à telle librairie, les appeler, enfin je suis plein de bonne volonté dans ma tête. Et puis après, il y a le temps et l'énergie aussi qui est énorme.
C'est aussi au niveau des tirages, parce qu'en fait, moi, je vais le tirer à 100, et du coup, moi j'ai pas beaucoup d'argent non plus pour le tirer une première fois. Et après, je refais des petits tirages, mais laisser en dépôt, ça veut dire qu'il n'y en a plus pour vendre à côté. Mmh. Et du coup, c'est cette question qui se pose.
Oui, parce que du coup, les librairies ne commanderaient pas, ne paieraient pas d'avance les revues. Donc, ça veut dire les laisser en dépôt-vente, donc en laisser peut-être 5, ce qui nécessite déjà une organisation. Et en plus, bah, si c'est pas vendu, c'est pas vendu, quoi. Donc, il n'y a pas de retour au niveau de l'argent. Sachant que le but n'est pas de se faire de l'argent, autrement, je pense qu'on ne ferait pas ça. Mais c'est de quand même ne pas en perdre pour pouvoir faire le numéro d'après.
Et le format, c'est le même? C'est A5,
Non, celle-là, c'est un format carré. 14,5 par 14,5. Voilà, c'est un petit format carré. C'est des poésies plutôt courtes. Voilà, moi j'ai découvert en fait la poésie, on va dire, contemporaine, il n'y a pas si longtemps. Il y a peut-être un an. J'en lisais avant, mais sans vraiment approfondir. Et là, j'ai trouvé une grosse diversité, enfin plein de choses vraiment différentes qui m'ont parlé. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire cette revue. Puis un petit peu pareil, je m'étais intéressé, puis j'avais acheté quelques revues qui, je trouvais, étaient un peu donc très cohérentes, ce qui n'est peut-être pas et un peu moins le cas de La Terrasse, mais un petit peu trop homogène à mon goût. Donc là, j'avais envie de mélanger plein de styles de poésie, et puis montrer aussi aux gens que voilà, la poésie, c'est pas quelque chose de fermé, c'est pas forcément quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui peut être direct aussi, que ça peut dire des choses. Voilà, donc bon, bah, je me suis d'abord amusé à le faire, et je me suis amusé aussi à partager sur ces textes avec les auteurs que j'ai pu rencontrer.
Et en termes de pages d'illustration, toujours sur le format, à quoi ça ressemble?
Alors du coup, bah, c'est carré. Donc il y a pas vraiment. Je voulais pas qu'il y ait vraiment d'illustration. Je voulais qu'il y ait quelqu'un que j'avais rencontré, c'est Joanne Jo, qui est de Saint-Étienne, une artiste peintre. Donc j'avais vraiment envie de travailler avec elle, mais j'avais pas envie que ses peintures, enfin ses reproductions de peintures, soient des illustrations. C'est-à-dire qu'elles passent, on va dire, au second plan du texte. Puisque sa illustration voudrait dire illustration de texte. Donc là, c'est plus des illustrations de peut-être de la revue, mais c'est plus finalement des œuvres en soi qui sont en plus. Donc elles ne sont pas à l'intérieur de la revue, c'est trois images qui sont dans la revue, mais pas agrafées avec le reste. Donc c'est. Voilà, je voulais que ce soit des œuvres à part entière et que ce ne soit pas considéré comme des illustrations. Donc ça, c'est quelque chose qui restera. Et pour le numéro 2, là, je vais travailler avec un photographe qui s'appelle Cédric Merlan, et qui va me proposer des photos. Et donc c'est pareil, ce sera pas dans la revue, ce sera à l'intérieur de la revue, mais pas relié à la revue. Donc ça permet aussi que les gens fassent un petit peu ce qu'ils veulent de l'objet photo ou de l'objet image. Voilà, et donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se présente, quoi.
Et il y a combien d'auteurs, en gros?
Il y avait 6 auteurs dans le premier numéro, et là, il y en aura 8 pour le numéro 2 qui sortira en octobre. Voilà, il y aura 2 photographes, en fait, et 8 auteurs. Donc voilà, c'est en cours de préparation, là.
Bon, bah alors, à bientôt en octobre, alors pour le prochain Revue La Terrasse. Une petite break musicale.
We'll be right back.
j'avais encore aussi envie de vous faire découvrir ce nouveau groupe qui s'appelle Gloria, et c'est aussi issu d'artistes lyonnais, plutôt précisément lyonnaises, puisqu'il s'agit de trois chanteuses lyonnaises, dont Wendy qui m'a apporté ce CD. Donc Gloria, c'est leur premier album, je crois, ensemble, et l'album s'appelle In Excelsis Stereo. Voilà, on continue avec Luna, notre invité du jour. Ils sont en trio avec leurs trois bières pour l'instant.
Et donc je vais lire un texte qui est paru dans le numéro 2 de Violence qui s'appelle Bête féroce. Une épée d'art me crispe le ventre. Il y a dans le rythme des tambours quelque chose de militaire qui me traverse, me met mal à l'aise. L'ambiance se tend au fur et à mesure qu'on progresse. Je ne peux pas m'empêcher de trembler. Je suis transi de froid, puis étouffé par la chaleur. Je me retourne fréquemment pour inspecter l'arrière, la surprise, essayer de ne pas être prise de court. Analyser toute possibilité de fuite, chaque ruelle est gravée dans ma tête. Et pourquoi ils s'engouffrent dans ces petites rues sans fin? S'ils nous prennent maintenant, on est foutus. J'avance, mais mon cerveau reste pétrifié. Des gestes qui se font tout seuls. Je roule une clope, réponds nonchalamment à Jean. Toutes mes lectures semblent vaines. Prise dans la réalité, je ne suis pas préparée. Obligée d'admettre que je ne suis pas une guerrière. Les tambours, encore. J'ai lu des témoignages qui disent « Je me sens fort à l'intérieur d'une foule, mais moi je suis glacée de peur. J'ai peur de la panique de tous ceux qui m'entourent, comme la dernière fois. Peur qu'ils me marchent dessus pour gagner quelques secondes. Peur des hommes robots qui peuvent apparaître à tout moment et de leur propension à faire basculer la réalité. Cette légère nausée, le corps qui anticipe, se retrouver coincé au milieu. » Je sais qu'avoir peur signifie qu'ils ont gagné. Brouhaha tribal, il y a les sombres, tout couverts, avec leurs grands yeux déterminés qui donnent l'impression de ne pas connaître l'appréhension. Ils sont rapides, efficaces, fascinants. Le ventre qui bloque. De quoi tu as peur? Pensez à respirer. Hier je suis sortie, et il y avait les autres. Tous les autres qui me frôlaient bousculés parce que le trottoir est toujours trop étroit. Alors j'ai commencé à marcher sur les rails du tram. Et au moment où il a klaxonné derrière moi, je me suis demandé, puis j'ai fini par m'écarter. Je pense un peu moins à me foutre en l'air depuis que j'habite une ville sans métro. Aujourd'hui c'est la traque et je n'ai pas envie de mourir. On sait que les loups rôdent, j'en ai vu partout avant de venir. D'habitude, je n'y vais pas, parce que ça ressemble trop au reste. Là, rassemblement, là, vous y allez, là, le gaz. Aujourd'hui, le préfet a décidé que nous n'étions pas autorisés à marcher. Cette rue, que j'ai empruntée maintes fois. C'est pourtant le même pavé, mais nous n'avons pas le droit. Je supplie mon ventre d'arrêter de rétrécir. Il y a le cœur qui bat partout, et cette rue sans issue qui ne finit jamais. De quoi tu as peur? Jean fonce à l'avant. Il y a ces moments où on se plonge l'un dans l'autre, les yeux et le corps, où je m'accroche à l'idée que ces instants nous appartiennent. C'est fragile et nécessaire. Je peine à sortir de chez moi depuis 2 mois. La fille qui me suit au centre social m'a demandé de faire un CV de ma vie, de noter les choses vraiment importantes. Ça tenait en tellement peu de lignes que je n'ai pas osé y retourner. Il y a des moments où j'ai envie d'eux. Les robots ne se montrent pas. Têtes d'habitants aux fenêtres, ils prennent des photos. Plus de tambours, juste les discussions disparates et le son oppressant de l'hélico. Il épie, mitraille pour son intérieur, pour l'avenir et les dossiers. Un peu moins de ventre. Je ne vois plus Jean. Mais lui sait comment faire. Il a les réflexes et du malox. Personne ne va mourir. De quoi tu as peur, putain? Ça s'agite par moments.
les gens qui courent, fausses alertes et tout se contractant dedans. J'ai honte de formuler que je ne suis pas faite pour ça. Mais je vois bien qu'il y en a avec les yeux qui pétillent. Ils te disent « on y va, pense enfin ». Il y a des moments où j'ai envie de... J'hésite à rentrer. Sur mes murs, il y a ces grands papiers blancs sur lesquels je peins. Ajouter, couche après couche, les protections supplémentaires. Une distance entre moi et le reste. Jour après jour, se retirer. Se pelotonner assez pour ne pas penser à... Pour oublier que... Espérer survivre en abandonnant les pleurs et les ressentis. En abandonnant la faim de faire. Ranger méthodiquement les dernières agonies dans le cimetière des possibles. Et puis d'un coup, ça revient trop fort. Il y a ces gens que j'évite parce qu'ils veulent forcer mes murailles, défoncer les boucliers, m'extirper de mon commun. Ils sont dangereux. Ils pourraient flinguer en quelques jours les certitudes que j'ai élues. Je les évite, mais je sais qu'ils ont raison. Alors tous les autres deviennent une menace, chacun à leur manière. Il y a ces nuits où je me promène et me sens forte. La dernière fois, j'avais envie d'eux, mais il n'y avait rien. Les rues étaient désertes et je suis rentrée. Je me sentirais coupable de me faire arrêter, parce que je suis là pour figurer. L'impression permanente, dès que je vois d'autres personnes, de les tromper, de ne jamais être dedans. La carapace pourrie de l'intérieur. Demeurer une charogne, debout. M'agiter dans mes intérieurs rances jusqu'à ce qu'il soit enfin plus tard. Cette lente décomposition, je n'arrive pas à la dater. Y a-t-il eu un début, un élément déclencheur? Depuis quand il n'y a plus de nerfs? Je sens qu'il y a là, tapis quelque part bien au fond, une furieuse envie d'exister. Qu'il y a trop de moments où j'ai envie de... Les tambours reprennent et me crispent le ventre. Je sais qu'avoir peur signifie qu'ils ont gagné. Il y a cette voix qui me chuchote de faire attention, qui me répète « Tu vas faire une bêtise, tu en as trop dans le ventre, tu as trop ruminé, il ne faut pas tout vomir d'un coup. » Et j'imagine tout ce dégoût qui se transforme en force. Je prends conscience que je pourrais faire mal. J'imagine le sang, des traînées rouges s'évadant de ma poitrine pour embellir nos joues. Il y a le cœur qui bat. Je ne sais plus bien si c'est par peur ou bien par haine.
s'arrange. Ici c'est sans détour que l'envie suit son cours. L'étrange, comme une autre fois, une fois supplémentaire, mais que l'on n'aura pas. Une surprise de fois, une surprise à la fois. J'ai le cœur trop fragile et la pupille sensible. Une surprise de fois, une surprise à la fois. J'ai le cœur trop fragile et la pupille sensible.
D'écouter un groupe qui s'appelle Tangram. Et l'album c'est Imago, et le morceau qu'on vient d'écouter c'était L'Étrange. Tangram, c'est Guillaume Dussabli et Benjamin Vaude, c'est aussi un groupe local. Et maintenant, qu'est-ce que tu nous lances, Astrid ?
Donc là, c'est le solo d'Henri Clerc, qui est donc aussi un auteur de violence. Et donc son solo s'appelle Beast to Clax. Donc c'est lui qui fait donc les compositions, et c'est une alternance entre du math metal et ses textes en fait, qu'il lit sur des boucles. Donc voilà, là il vient d'enregistrer un album sous un tout nouveau label qui s'appelle Saint Soupir. Si je regarde mes notes, oui, mm-hmm. C'est bien ça. Donc c'est un nouveau label là, qui va sortir de Clermont-Ferrand. Et ils vont faire une sortie en septembre ou octobre à Lyon. Ils ne savent pas encore trop quand, mais voilà. Et donc l'album de Beast to Clax, c'est Salmi Gondis. Et là, le morceau qu'on va entendre s'appelle « Vache à hublot ».
Thank you. salaire, destination Pôle emploi, pour qu'ils relèvent les 10 pauvres heures que j'ai travaillées ce mois. J'ai l'impression d'être une vache à hublot. On me fait bouffer des aides pour que je ferme ma gueule. Pas encore digéré, voilà qu'on m'ouvre la trappe. Le bras glissé au plus profond de mon maigre abdomen, ils tirent pour récupérer ce qu'ils m'ont donné, via le loyer d'appartement qu'ils possèdent, via mon mini-mob insuppressible de course, dans des magasins qu'ils possèdent, via les taxes, les impôts que je dois à un état qu'ils possèdent. Comme si je pouvais épargner, comme si avec ça je pouvais être, comme ils le disent, tranquille. Puis ils me donneront encore leur putain d'aide, leur putain de charité, qu'ils me fourront dans la bouche pour me l'extirper une fois dans l'estomac, réouverture de la trappe, avec ce bras qui farfouille en moi. Mais donner, c'est donner, et reprendre, c'est voler. Non, nous ne sommes pas des assistés. Si on se démerdait pour les toucher vraiment, ces sous, sans appart, à la rue, en faisant les poubelles pour trouver de la graille, ils verraient bien que c'est eux qui profitent des aides, qui profitent des gens vivant sous le seuil de pauvreté, troussant au passage la classe moyenne qui ne dispose pas de moyens s'éroder pour récupérer ce qu'ils donnent. Sans nous, pour leur reverser leurs précieuses aides, ils n'auraient pas ces rentes, ils n'auraient pas ce travail qui rapporte autant, ils n'auraient pas de si jolies vacances, ils n'auraient pas la femme qu'ils achètent pour rester, les belles fringues, les bons mets finis. Si au lieu d'être assistés, nous étions tous errants, sans leur logis, sans leurs impôts, s'il nous restait un bout de terre pour vivre autonome, sans eux, hors de leur politique, ils pourraient toujours l'ouvrir notre trappe, et la secouer longtemps la tirelire. Fini le magot inépuisable, présent, là, sous la main, dans la foule de pauvres, de bons, sans regard bovin. Parlement a gagné, ils pourraient comprendre que ce sont eux les assistés.
Il y a ceux qui pèsent contre le cœur leur rendu, ceux qui s'ouvrent à la vie d'un grand baiser. Il y a ceux qui ne forniquent pas, avec la peur partout en eux. Celle qui fait les vieilles tristes, aimer les corps trous, tels des livres enchaînés que nul voir ne lira, ne lira, ne lira. Il y a ceux qui baissent sur la pointe des pieds, avec des gestes de loin en loin. Il y a ceux qui n'ont jamais les mains libres et ne consultent leur miroir que pour voir leur tête d'apparat. Il y a ceux qui ne salissent jamais leurs draps, ceux qui meurent à l'usure dans l'exil et l'expectative. La lèvre sèche et la bave assassine. Ils vont toujours la tête baissée, un genre de mesure préventive contre la moindre des tentations. Pas un baiser, une anecdote qui mérite d'être contée. Rien qu'un cœur vide qui serre les fesses et des phrases toutes faites. Il y a ceux qui n'osent pas, ceux qui sanctifient, ceux qui sacrifient leur quota de chair morte au rituel inhumain d'abstinence et d'accoutumance. Au rituel inhumain d'abstinence et d'accoutumance.
C'était encore le groupe Antidaté pour vous faire découvrir un petit peu donc, l'album de Fabien et Malika. Et donc c'était le troisième morceau, Il y a ce. C'est Astrid qui nous présente un de ses textes.
Donc Astrid va nous lire un texte qui s'appelle Dégueulassé, donc, qui est sorti dans le dernier numéro de Violence. Et on clôt la première partie consacrée à Violence comme ça.
Il fait doux. Bien trop doux pour ce que je m'apprête à faire. C'est un début de soirée d'avril, l'air commence à sentir fraîchement le printemps. J'avance lentement dans les rues ternes de ce quartier résidentiel. Je marche toujours lentement, trop lentement, à tel point que ça agace les gens qui m'accompagnent, mon frère surtout. Mon frère peste tout le temps, en m'attendant 50 mètres plus loin. À chaque fois, il gueule. Mais c'est pas possible, c'est un vrai mollusque cette fille. Il piétine. Là, tu veux dire que t'es à ton maximum? Mais je n'y peux rien. Je n'arrive jamais à accélérer. C'est comme si mon corps de caoutchouc refusait de m'obéir. C'est comme si mon mental n'était pas assez fort pour donner à mes muscles l'envie d'avancer. « C'est la honte, » me dit mon frère. « Ta démarche est ridicule, » me dit mon frère. Il a peur qu'on me prenne pour une débile, pour une attardée mentale. Mes savates traînent sur ce béton trop connu. Ces rues que j'arpentais il y a peu de temps encore en tirant ce sale kleps au bout d'une laisse. Ce qu'il pouvait me dégoûter, à renifler les merdes comme ça, à lécher les pisses. Mais heureusement qu'il était là, ce pauvre clébard, défouloir de la famille. Oui, ça, il s'en prenait des torgnoles, des coups de tatane de dessous la table. Il nous permettait de décharger notre violence. Il nous évitait de nous entretuer. Aujourd'hui, ça me fait culpabiliser d'y repenser. Mais ça ne sert à rien. Le mal est fait. J'arrive en bas de l'immeuble. Je lève la tête. Les stores sont encore baissés, toujours baissés. Je l'imagine rôder dans la pénombre. J'hésite à rebrousser chemin. Je ne me sens pas l'énergie de faire ce que j'ai à faire. Je ne ressens que cette fatigue qui me suit comme mon ombre. Mais j'appuie sur l'interphone. L'attente est longue, puis ça décroche. Et ça dit d'une voix toute déformée « C'est qui ?» Alors je réponds « C'est moi ». La porte s'ouvre et je rentre dans le hall. La mère n'est pas restée pour m'accueillir. Non, elle a juste entrouvert la porte et s'est tirée. Quand je pénètre dans l'entrée, c'est d'abord les effluves du tabac qui me sautent aux narines. Puis la deuxième vague arrive, ce mélange de sueur et de vinasse. Je la vois de dos, assise dans le noir de la cuisine au store baissé. Et là, la fatigue semble s'évaporer par mes pores. Et là, la colère remplit mes veines. Entre nous, la table. En face de moi, une tasse de thé brûlant. Devant elle, un verre de vin rouge. Pas très loin, deux bouteilles traînaillent. Une vide, l'autre pas encore tout à fait. Le cendrier est bourré à craquer de mégots. La mère a les yeux à moitié clos. Les pupilles dilatées, le blanc rougi. Son visage est tourné vers la fenêtre. À quoi ça sert? Rien à y contempler. Les stores toujours baissés. Elle essaye d'allumer une cigarette, mais bute sur la roulette du briquet. Elle finit par lui faire cracher une flamme, mais n'arrive pas à l'aligner avec sa cigarette. Le feu danse dangereusement du côté de ses cheveux noirs aux racines grises. Je lui pique son matériel, allume sa clope et la lui tend. Elle l'accepte sans un merci. J'ai décidé d'y aller avec diplomatie. D'une voix calme, je prononce distinctement en un mouvement excessif des muscles de ma mâchoire crispée une phrase longuement préparée dans mon crâne. « Rends-la-moi. » Elle n'a pas l'air de m'avoir entendue. Ne me regarde pas. Elle marmonne. La vie, c'est juste attendre de crever. Elle marmonne. La seule chose que j'ai faite, c'est élever mes enfants. Elle engloutit une rasade de vin. Et en plus, je les ai ratés. Je racle le fond de ma gorge et monte légèrement le ton. « Rends-la-moi. » Ses lèvres noircies par le tanin viennent téter le fil de sa cigarette. Non, c'est pas une fille, ça. Une fille, ça s'occupe de sa mère. Elle tente de s'accouder à la table, mais loupe le rebord. Je la chope par la manche de son t-shirt, l'empêche de basculer de sa chaise. Je suis malade, moi. Je suis malade et tout le monde s'en fout. Je sens mon corps se tendre. Mes yeux se mouillent. Rends-la-moi ! Elle attrape la bouteille. J'aurais jamais dû la laisser partir. Elle essaye de viser le verre, mais déverse le contenu sur la table. Plutôt lui planter un couteau dans le dos. Cette fois-ci, je crie. Ma voix déraille. Mon poing vient frapper la table. Rends-la-moi ! Rends-la-moi ! Je m'épuise. Entre mes larmes, je vois enfin son visage changer. Oui, elle m'a entendu. Oui, elle va réagir. Les coins de sa bouche se mettent à piquer vers le sol. Ses sourcils, eux, s'enfuient vers le front. Et d'une voix géniarde, elle pleurniche. Rends-la-moi ! Rends-la-moi ! Gna 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 ! Je bondis de ma chaise, escalade la table. Je renverse ma tasse, me brûle les cuisses à coups de thé bouillant, trempe mon jean de vin rouge. Mes mains viennent s'écraser sur son visage. Sa chaise bascule, on chute. Elle pousse un cri d'animal touché par la balle du chasseur. Au sol, je m'assois à califourchon sur elle pour l'immobiliser. Je ne pleure plus, je ne fais que hurler. Je lui postillonne à la face. « Bordel, tu vas me la rendre, oui ?» Elle braille. « Je le dirai à ton frère !» J'agrippe son visage à pleine main, je lui déforme les traits, transforme en cul de poule sa bouche à l'hélène écœurante. Je vais te la faire cracher, moi.